On était en train de voir qu'est-ce que nous, on doit faire. C'était... On avait vu notre ego qui empêche pas mal de choses, les difficultés, mais aussi ce que le Seigneur désire faire à travers le Saint-Esprit pour nous aider. Mais on a aussi d'autres responsabilités. Ce n'est pas juste je me soumets à toi, Saint-Esprit, et ensuite, moi, ça y est, fais tout le travail en moi. C'est on a notre part de responsabilité. Et on doit. On a dit que, on avait parlé que nos tempéraments, oui, ont des défauts, ont des choses négatives par rapport à nos tempéraments, mais que Dieu, lui, n'a pas fait d'erreur dans le tempérament qu'il nous a donné. Et qu'il ne faut pas juste voir nos défauts comme étant des choses qu'on ne peut pas enlever ou changer, et qu'on doit les voir comme des péchés que le Seigneur, lui, veut éradiquer. Et donc, ça c'est la première chose qu'on doit faire, c'est de voir nos défauts comme un péché. On a vu ça la dernière fois, on a dit pas faire d'excuses, etc., etc. Donc, la deuxième étape qui va dans la logique de la chose, de la suite, c'est d'être rapide à confesser, de réaliser qu'on a péché, c'est une chose, mais pas tout le monde est rapide à les confesser, à être repentant, si vous préférez, à dire oui, je suis pécheur, mais j'en suis pas désolé. Ça ne me gêne pas autant que ça. Là, il y a un problème aussi. Mais nous, en tant que chrétiens, si on ne veut pas attrister le Saint-Esprit, éteindre son effet dans notre vie, ben on est obligé d'être rapide à vouloir pas seulement admettre que ceci est un péché, mais de vouloir s'en débarrasser. Je sais que nous citons souvent 1 Jean 1, 9, ainsi. Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et on a même eu un message dessus il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines. Et l'accent est mis sur le fait que Dieu pardonne parce que lui est fidèle, et fidèle à sa parole, et non parce que nous méritons d'être pardonnés. Et pour moi, c'est extrêmement encourageant. Et ma confiance, ma foi, la foi que Dieu pardonne n'est pas basée sur moi. Elle est basée sur le fait, ma foi n'est pas basée sur le fait que j'ai suivi les étapes pour mériter d'être pardonné. Ça, c'est ce que fait le monde. J'ai prié autant de... J'ai fait toute ma rosée là, puis normalement c'est bon, je dois être pardonné. J'ai fait ce que je devais faire. Mais ma foi, elle est sur le fait que Dieu ne reviendra pas sur sa promesse de pardonner tous ceux qui confessent leurs péchés, qui admettent leurs torts et désirent être obéissants à la volonté de Dieu. Donc ma foi, elle est dans sa personne et non dans les étapes que moi j'ai faites. Ah, ça y est, je suis désolé et donc Dieu va me pardonner. Non, j'ai besoin d'être désolé pour confesser et d'être repentant. Dieu attend cela, mais Dieu me pardonne à cause de qui il est lui, à cause de sa promesse. Chaque croyant devrait connaître ce verset. Et je dis cela, je le dis tout le temps, de quelqu'un qui a du mal à garder les versets mémorisés, mais c'est un verset que tout chrétien devrait faire l'effort de mémoriser et qui doit pouvoir donc se le rappeler, faire l'effort de se le rappeler à chaque fois qu'il commet un péché. Que si nous confessons, la condition c'est qu'on soit repentant. Si on est repentant, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, sans exception. On ne doit pas l'apprendre par cœur pour la réciter, hein, comme une prière qu'on répète et qu'on répète jusqu'à ce que ça y est, maintenant je crois que c'est bon, il l'a fait. Mais pour nous rappeler que Dieu est fidèle, que Dieu a promis de pardonner ceux qui sont sincères dans leur repentance. De me rappeler que Dieu ne ment pas et Dieu est juste. Il est fidèle et juste. Pas, il est fidèle parce que je suis juste de me pardonner. Peu importe le nombre de fois que j'ai péché, le nombre de fois que j'ai commis le même péché dans la même journée, peu importe le temps écoulé depuis la dernière fois que j'ai péché, que ça fasse 1 mois, que ça fasse 30 secondes, la dernière fois que j'ai demandé pardon à Dieu pour mon péché, et que tout de suite après j'ai eu une mauvaise pensée, ben, il faut que je retourne dans la prière pour reconfesser cette mauvaise pensée Et peu importe le temps écoulé, long ou non, je dois revenir devant lui parce que lui est fidèle et juste pour pardonner de toute iniquité. Et je n'ai absolument aucune raison de ne pas avouer mon péché. Et je n'ai absolument aucune raison pour ne pas la confesser et de venir devant Dieu avec un cœur repentant. Quelqu'un, je ne sais pas qui exactement, quelqu'un a appelé ce verset-là le petit savon du chrétien, le 1 Jean 1,9. Et c'est parce qu'on doit l'utiliser régulièrement, quotidiennement, pour enlever toute saleté, tout péché de la journée. On ne penserait pas à passer une journée sans jamais toucher le savon à n'importe quel moment donné, même si ce n'est juste pour se laver les mains avant de manger. Sauf les enfants, oui. Et c'est pour ça que les parents disent, hey, est-ce que tu t'es lavé les mains? Il dit, ça devrait être la même mentalité, je ne peux pas aller au lit sans être, est-ce que je vais aller au lit sale et pas en règle avec Dieu? Là, le psaume 66, versets 17 et suivants, nous disent, j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Mais qu'est-ce qui fait que qu'il n'aurait pas écouté, qu'il aurait rejeté ma prière? Bah, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Si je sais que j'ai péché et que je refuse de l'admettre, encore plus, je refuse de la confesser, de m'en repentir. Je n'ai absolument aucune raison de croire que Dieu va exaucer la moindre prière que je mets devant lui. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange était sur ma langue. Tant mieux, c'est bien. Mais si j'ai de la saleté dans mon cœur, je n'ai absolument aucune raison de croire que lui va exaucer ma prière. Parce que béni soit Dieu qui n'a pas rejeté et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Il veut la donner, sa bonté. Mais parce que tu es sale, je suis obligé de la retirer. Purifie-toi, lave-toi, viens devant moi, admets ton tort, etc. Et n'importe quel chrétien devrait pouvoir réaliser qu'il ne se passe pas une seule journée où je n'ai pas besoin de Dieu. Juste le fait, je ne parle pas de où j'ai besoin de confesser, ça c'est vrai aussi. Mais il n'y a pas une seule journée où je peux dire, je commence cette journée, Seigneur, tu peux t'occuper des autres aujourd'hui, c'est bon, je n'ai pas besoin de toi. Je gère. Il n'y a pas une seule journée où je réalise que je n'ai pas besoin de son aide, son soutien, sa grâce, son amour. J'ai besoin qu'il m'instruise, j'ai besoin qu'il me guide, j'ai besoin qu'il m'aide dans les décisions de la journée, j'ai besoin qu'il m'aide à ne pas faire les erreurs que je ferais autrement. J'ai besoin de Dieu pour vivre correctement, fidèlement. Chose impossible quand mon péché me sépare de lui. Quand mon péché fait que ma communion avec lui est rompue. J'ai besoin de confesser, admettre et me repentir de mes péchés tous les jours parce que je ne peux pas traverser la moindre journée sans son aide, alors qu'il me retire sa bonté. Pourquoi est-ce que je vais empirer ma journée alors que je l'ai déjà rendue mauvaise par mon péché, que je vais empirer la chose en refusant de me repentir? Dès l'instant que je suis conscient de mon péché, je dois avoir l'attitude que je n'ai pas le droit d'attendre. Pour quelle raison est-ce que j'aurais raison d'attendre? Oh, mais si j'en suis conscient, mais si je confesse maintenant, est-ce que je serai vraiment sincère? Je ne pense pas que c'est le Saint-Esprit qui me pousse dans la direction de me faire attendre. Au mieux, le Saint-Esprit dit, tu as péché, tu en es conscient maintenant, prie maintenant. Mais sois sincère maintenant. Humilie-toi. Parce que la prière de la repentance est automatiquement liée à l'humilité. L'humilité, ça ne va pas être de la fausse humilité. On fait semblant parce qu'on sait que Dieu connaît notre cœur. Il voit notre cœur. On ne peut pas le tromper. Et une fois confessé, on sait que Dieu est fidèle et juste. Je n'ai plus à remettre en doute ce que lui a promis qu'il fera. Je peux me lever par la foi, sachant que Dieu est fidèle, que je suis pardonné, ma communion est restaurée, sa bonté est remise sur moi, et on est prêt à aller de l'avant. On oublie ce qui vient de se passer. C'est effacé, c'est lavé. Mais je ne vais pas retourner au lavabo pour voir si je peux retrouver trace des saletés que je viens de laver de ma main. Elles ne sont plus sur ma main, c'est ça qui compte. Mais dès que j'ai conscience de ce péché dans ma vie, ben je dois me rappeler de 1 Jean 1,9 et croire que Dieu, lui, est déjà prêt à pardonner, pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai prié, pas parce que j'en suis maintenant conscient, mais parce que lui est fidèle et juste pour nous lui pardonner. Le pardon qu'il me donne a tout à voir avec lui, ça a tout à voir avec son amour, ça a tout à voir avec sa grâce, ça a tout à voir avec sa miséricorde, et non à voir avec moi qui ai suivi les étapes nécessaires pour qu'il me pardonne. Je dois faire ma part, je dois confesser, je dois me repentir, je dois avoir l'humilité, mais le fait qu'il me pardonne a tout à voir avec lui. Je peux faire toutes ces choses et lui toujours vouloir refuser son pardon, il aurait tout à fait le droit de le faire. Je ne pourrais pas dire à Dieu, tu es injuste de ne pas vouloir me pardonner alors que je me suis montré repentant. Il dit non. Il dit, le fait que je t'ai montré miséricorde et que je ne t'ai pas puni tout de suite, dès que tu as péché, montre que ça c'est moi qui te fais grâce. Que je ne te donne pas ce que tu mérites vraiment. Mais c'est nous, on essaye de faire de notre vie beaucoup trop basé sur nous. Si je suis les étapes, alors je mérite d'être pardonné. Je mérite l'amour de Dieu. Je mérite la grâce de Dieu. Ce qui va en direct contraste avec la définition même de la grâce. Et on pourrait continuer là-dessus, mais comme on dit, on a eu pas mal de prédications sur même ce verset. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être rempli de l'Esprit? Voir nos défauts comme un péché, être rapide à confesser nos péchés, et ensuite être rapide à demander l'aide de Dieu. C'est pas parce que maintenant j'en suis arrivé au point, oui, je vois que ces choses sont des péchés, et oui, je les ai confessés avec une vraie repentance de vouloir m'en éloigner, que maintenant, ça y est, j'ai fait ce qu'il faut, et maintenant je vais être rempli. Non, il faut également qu'on demande de l'aide de Dieu pour avoir la victoire sur ce même péché. C'est même parce qu'on est en train de parler spécifiquement des péchés, de ces défauts qui sont traits de notre caractère, de notre tempérament personnel à nous. Qu'on soit colérique, sanguin, etc. Peu importe, les choses qui nous sont plus faciles à nous pousser vers le péché, de ne pas juste les reconnaître comme des péchés, pas seulement les confesser quand on les fait, mais de dire, Seigneur, je sais que toi tu veux me donner la victoire sur ce péché, sur cette colère, sur cette peur, sur cet orgueil, sur cet fainéantisme, sur ceci ou cela, peu importe ce que c'est, je reconnais que c'est un péché, je te demande pardon, mais pas seulement est-ce que je demande ton aide, mais je sais que tu peux m'aider à avoir la victoire sur ce péché. Et ça va avec d'autres versets, on n'a pas le temps de les voir ce soir, où plusieurs fois nous voyons Dieu nous dire que lui veut nous aider à nous débarrasser de ses péchés, de certains péchés. Que ces choses, comme ils disent, ne soient plus, j'oublie les termes maintenant, ne soient plus quelque chose parmi vous. Même nommé parmi vous. Et à d'autres moments, maintenant, je n'ai pas regardé les références récemment, j'aurais dû. Peut-être il y en a un. Non, peut-être, mais c'est pas grave. Mais même à plusieurs fois, qu'ils disparaissent du milieu de vous, c'est le mot que je cherchais. La référence, j'oubliais, mais qui dit que ces choses disparaissent du milieu de vous. Il ne veut pas juste que ça soit diminué ou qu'on le fasse moins qu'avant. Peut-être que ça devrait passer par cette étape où on ne s'en débarrassera pas du jour au lendemain comme ça, mais qu'on ne soit pas satisfait qu'on le fasse moins qu'avant non plus. Qu'on le fasse moins pour arriver au but où que ces choses disparaissent du milieu de nous. Et pourquoi demander à Dieu de nous aider à nous débarrasser d'un péché si on ne croit même pas que Dieu en soit capable? Comme on a dit, même la colère ou la peur qui éteint ou attriste le Saint-Esprit dans notre vie, ou l'égoïsme ou l'orgueil qui est souvent présent dans notre vie, Dieu peut et veut nous aider à nous en débarrasser. Mais le croyons-nous vraiment? Est-ce qu'on croit réellement que Dieu peut nous aider à vraiment avoir la victoire sur ces choses dans notre vie? Ou est-ce que nous confessons ces péchés avec l'idée, même pendant qu'on confesse ces péchés, à l'arrière de notre pensée, dit, bah, de toute façon, je vais les commettre à nouveau. J'espère juste que ce ne sera pas tout de suite. C'est dommage de penser de la sorte, mais il y a beaucoup de chrétiens, j'en suis certain, qui le font. 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 15, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, pas que vous espériez, mais que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, pas espérance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, ne croyez-vous pas que ça fait partie de sa volonté, parce qu'il dit bien, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est ça la grande condition. Ne croyez-vous pas que lui désire nous aider à nous débarrasser de ses péchés? Ou est-ce que lui désire que ses péchés restent et nous influencent encore un petit peu dans notre vie? Ou est-ce qu'il désire est-ce que ces choses disparaissent? Donc si on demande à Dieu, aide-moi, est-ce que cet orgueil, cette peur, cette crainte, toutes ces choses disparaissent de ma vie? Ben, où est notre foi? Est-ce que nous croyons réellement dans les versets tels que celui-ci, que Dieu veut utiliser pour nous aider à nous débarrasser de ces choses, afin que nous sachions qu'on n'a pas seulement la vie éternelle, mais qu'on a cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire qu'il nous entend, il est favorable à ce qu'on demande. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, qu'il va nous aider à ce que ça s'accomplisse. Parce que ça fait partie de sa volonté, pas parce qu'on le mérite, mais parce que c'est ce que lui veut. Et parce que nous, on s'est soumis à sa volonté de faire ce qui lui plaît. Seigneur, je veux être pur comme tu es pur. Je veux être saint comme tu es saint. Je veux ressembler à Christ. Je veux que tu m'aides à me débarrasser de cette colère, de cet orgueil, de cette manque de foi même, et de savoir que le Seigneur est capable et désire m'aider avec cela. Le passage en 1 Jean 5, qu'on a vu il y a un instant, nous dit que nous pouvons être confiants, et on peut savoir que Dieu exaucera nos prières, quand nos prières sont conformes à sa volonté. Alors qu'est-ce qui nous empêche de prier ? Pour que Dieu nous donne la victoire. Qu'est-ce qui nous empêche de prier pour que Dieu enlève ce péché dans ma vie? Cette peur, cette crainte, ou cet orgueil, ou peu importe ce que c'est, ces tentations qu'on a. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bon, il y a tout un contexte. Et puisque le Seigneur a tout pouvoir et qu'il a démontré cette puissance en créant le ciel et la terre, y compris l'homme, nous, toi, vous et moi, il a aussi certainement les moyens de vaincre nos faiblesses et de nous donner la victoire. C'est la même vérité que nous retrouvons dans « Je puis tout par celui qui me fortifie », parce que lui est tout puissant, a tout pouvoir. Ce n'est pas que je sois capable de faire quoi que ce soit, encore moins tout, mais rien n'est impossible à Dieu, et donc Dieu peut faire l'impossible en moi, mais aussi avec moi, ainsi qu'à travers moi. Ce n'est plus une question de capacité, mais une question de foi, d'où la prochaine étape, qu'on est obligé, une fois qu'on a demandé l'aide de Dieu, de ne jamais douter de Dieu. C'est, encore une fois, pourquoi demander à ce que Dieu nous aide si on ne croit pas que Dieu soit capable ou qu'il ait envie de le faire. Nous ne devons jamais douter que Dieu soit capable d'enlever ce péché dans notre vie. Ça doit être logique. La logique de la pensée serait également que rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de faire ce que lui a envie de faire. On vient de dire, hein, le passage de 1 Jean 5, que si on demande quelque chose selon sa volonté, on possède la chose que nous avons demandé même avant de l'avoir physiquement, avant de voir le résultat. Parce que rien ni personne ne pourra empêcher à ce que la volonté de Dieu se fasse. Parce que le plus grand obstacle pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, ça a toujours été nous. Alors quand nous, on arrive enfin au point où nous sommes conformes avec sa volonté, qu'on accepte sa volonté, qu'on accepte que ceci n'est pas juste un défaut, qu'on ne fait plus d'excuses, mais c'est un péché et je veux m'en débarrasser. Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Je te fais confiance, aide-moi à me débarrasser de ce péché dans ma vie. Rien ne pourra plus maintenant l'empêcher de le faire, si ce n'est si on redevient incrédule. Si on a cette mauvaise pensée de « ça y est, j'ai prié, alors maintenant c'est bon, je n'ai plus à me soucier de ce problème. » Non, ce n'est pas ça. Et les tentations arriveront quand même. Il faudra remontrer, être ferme dans notre foi, que « Seigneur, tu vois, ma chair a toujours envie, un penchant vers cette crainte, vers cette peur, vers cet orgueil, vers ceci ou cela. » Mais Seigneur, à chaque fois, on en revient à l'étape 3. Seigneur, aide-moi, je te fais confiance. Je n'ai pas encore commis ce péché, je n'ai pas besoin de faire l'étape 1 et 2, là en ce moment. Je n'ai rien à confesser. Mais si tu ne m'aides pas, j'ai peur que je vais retomber dans ce péché. Mais je veux te faire confiance. Et si jamais on fait l'erreur de suivre le penchant naturel de notre cœur ou de nos émotions et qu'on pêche, ben qu'on soit rapide à revenir au premier point. Seigneur, je n'ai pas d'excuse. J'ai été influencé, certes, mais c'était quand même mon choix. Je n'ai pas d'excuse, j'ai péché. Pardonne-moi, je veux m'en débarrasser. Seigneur, aide-moi à ne pas recommencer. Et on en revient, étape 1, 2, 3, avec cette quatrième. Seigneur, je sais que tu es capable. Je ne vais pas douter de ton aide. Et à chaque fois que je pêche, je peux me poser plusieurs questions. Est-ce que lui désire toujours me laver, me purifier, me pardonner? Et si on croit que oui, et qu'on confesse, qu'on se repente, on peut se poser la deuxième question. Est-ce que Dieu désire toujours m'aider à me débarrasser? Si oui, alors je peux demander avec confiance, Seigneur, que tu m'aides. Et avoir confiance que lui, que j'ai absolument aucune raison de douter qu'il le fera. Le psaume 115, verset 3, nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et ça veut déjà tout dire. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a envie. Psaume 135, verset 5 et 6, « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Rappelez-vous également du verset qu'on vient de voir il y a quelques minutes, cette déclaration de Christ juste avant qu'il ne donne la charge à ses disciples d'aller de par toutes les nations pour évangéliser, prêcher, baptiser et implanter les églises, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous savons que la foi ne donne pas la place au doute et que le doute est l'ennemi de la foi. Avoir une connaissance des versets bibliques ne vont jamais suffire. Le fait d'être d'accord avec ces versets ne sera jamais suffisant non plus. Il faut y croire. Savoir que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. S'il n'y a qu'une seule vérité que je crois mérite que je mette en doute, que je trouve dans la parole de Dieu, ça devrait mettre en doute toute la parole de Dieu. Si Dieu se trompe sur un point, alors comment est-ce que moi je peux être sûr, avoir l'assurance de mon salut? Comment est-ce que je peux savoir que je suis sauvé pour toujours si Dieu peut se tromper ailleurs dans un autre endroit, dans une autre vérité de sa parole? Mais si je suis certain que je suis sauvé, c'est sur la base que je place ma foi dans ce que Dieu dit est vrai, que je n'ai absolument aucune raison de mettre en doute ce qu'il me déclare. Alors si je peux faire ça pour mon salut, je peux faire ça pour mes péchés et mes faiblesses, mes manquements, les choses que je veux que Dieu m'aide à me débarrasser dans ma vie. Seigneur, je ne mets pas en doute le fait que je suis sauvé et que je vais rester sauvé. Je n'ai absolument aucune raison de mettre en doute que tu vas m'aider à me débarrasser de ce péché non plus. On va s'arrêter là pour ce soir, même si on est dizaines de minutes en avance. Parce que sinon, ça va un peu trop loin après. Ouais, on verra la suite la prochaine fois, on s'arrêtera là. C'est...